On dit souvent que Québec solidaire est surtout un parti urbain. Cependant, vous constaterez dans l'entretien que j'ai eu avec Nicolas Châtel-Launay que la plateforme agroalimentaire de la formation est assez élaborée. Nicolas Châtel-Launay, vous êtes candidat pour Québec solidaire dans la circonscription de Jacques Cartier sur l'île de Montréal, mais vous êtes porte-parole de Québec solidaire pour ce qui est des dossiers agricoles. C'est pas un domaine qui vous est étranger, là.
Non, je suis entomologiste. Je travaille au CLD des Jardins de Napierville à Napierville au pôle d'excellence en lutte intégrée. Donc, professionnellement, mon rôle, c'est d'aider les producteurs agricoles à utiliser moins de pesticides dans leur production et à avoir accès à toutes les techniques qui existent actuellement pour en réduire leur usage. J'habite par contre dans Jacques Cartier à Sainte-Anne-de-Bellevue. J'ai d'ailleurs étudié pendant ma scolarité universitaire au campus McDonald's dans ma circonscription.
La politique bioalimentaire du Québec, quelle suite à Québec solidaire souhaitez-vous qu'il soit donné à ce document-là? Comment voyez-vous la suite des choses pour cette politique bioalimentaire?
Du premier côté, la politique bioalimentaire est intéressante parce qu'elle a permis pour une rare fois au Québec de mettre beaucoup des acteurs du milieu agricole autour de la table et d'obtenir une vision pas forcément complète, mais relativement juste des enjeux agricoles. Par contre, la politique bioalimentaire qui a été déposée par le gouvernement actuel a des intentions intéressantes, ne va pas assez loin dans l'application. Nous voudrions revoir la politique presque au complet pour aller plus loin. En fait, mais en partant beaucoup sur les mêmes bases en termes des intentions. Nous voulons une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement. Nous voulons un meilleur lien entre les citoyens et les citoyennes des villes et les producteurs et productrices agricoles. Nous voulons des agriculteurs et des agricultrices mieux soutenus. Donc nous voulons aller plus loin sur ce dossier. Mais ne vous inquiétez pas, ce qui a été dit dans le processus de la politique bioalimentaire ne sera pas oublié.
Quel type de ferme souhaitez-vous au Québec?
Déjà, Québec solidaire, nous avons une vision d'un Québec qui a à la fois une sécurité et une souveraineté alimentaire sur son territoire. Nous voulons avant tout des fermes qui sont capables de produire pour le marché québécois, en quantité et en qualité optimale. Et nous voulons que toutes les Québécois et les Québécoises aient accès au plus de produits locaux possible. Donc c'est sûr que nous voulons soutenir les agriculteurs pour qu'ils puissent produire pour nos marchés et que l'agriculture se fasse surtout en circuit court, que les fermes puissent vendre leur production à un prix juste à des citoyens et citoyennes près de chez eux. Entre autres, si on pense aux fermes animales, nous voulons que des abattoirs régionaux soient de nouveau disponibles et qu'on puisse avoir les produits d'origine animale en circuit plus court qu'actuellement, où la production doit être emmenée sur des très grandes distances avant de se rendre au consommateur et que malheureusement, on en perd la trace. Ce qui est un gros problème en termes de sécurité alimentaire, mais aussi qui est un problème si on veut implanter des pratiques agro-environnementales plus durables.
Est-ce qu'on peut entendre par là que vous souhaitez des plus petites fermes plutôt que des plus grosses?
Nous voulons des fermes familiales et nous voulons une diversité des modèles de fermes. Donc les plus grosses fermes ne seraient pas attaquées par Québec solidaire. Nous voulons qu'elles existent. Nous voulons donner la possibilité, par contre, aux personnes qui voudraient faire de l'agriculture, mais à plus petite échelle, d'avoir également cette possibilité. Donc nous voulons vraiment une diversité de pratiques, une diversité de tailles d'exploitation pour nourrir la population du Québec qu'on a grandement besoin.
Et je présume que, bien sûr, la production biologique, c'est quelque chose qui vous sourit.
Oui, la production biologique est un modèle qui nous intéresse beaucoup. Par contre, nous sommes tout à fait conscients à Québec solidaire qu'on ne fera pas virer toutes les fermes du Québec au biologique dans le court laps de temps. Donc, nous voulons soutenir les productions non biologiques également, afin que toutes les pratiques possibles pour améliorer leur impact environnemental soit présente aussi. Donc on est bien conscient que l'agriculture québécoise ne sera pas biologique au complet du jour au lendemain. Par contre, nous voulons enlever les barrières à la transition biologique actuelle, entre autres rendre la certification biologique, rembourser son coût pour les producteurs et productrices qui choisiraient de passer au bio.
Un secteur comme la sériculture, la production en serre, il y a quand même des investissements importants qui sont faits dans le secteur de la sériculture. C'est une piste que l'on doit privilégier dans l'économie agroalimentaire québécoise?
La sériculture est une bonne avenue. À Québec solidaire, on est intéressé par la pratique et nous voulons d'ailleurs y investir. entre autres, dans la rénovation des bâtiments pour qu'ils soient plus éco-énergétiques, pour qu'il y ait moins de perte de chaleur en hiver, pour avoir moins de dépenses d'énergie et pouvoir intégrer dans les modèles de sériculture des énergies renouvelables autant que possible. Bien qu'on soit aussi conscient que certaines productions séricoles réutilisent leur CO2 pour augmenter la production des plantes, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir le plus d'énergie renouvelable possible, le moins de pertes d'énergie possible, mais effectivement, la sériculture est une avenue intéressante, particulièrement dans les mois d'hiver, où on ne fera jamais pousser des tomates à l'extérieur en février au Québec, quelle que soit l'importance des changements climatiques.
En ce qui concerne la relève, depuis nombre d'années, on n'arrive pas à trouver la bonne façon de stimuler et de soutenir la relève. Comment voyez-vous ça?
D'abord, nous n'avons pas les solutions magiques et il va falloir, une fois au gouvernement, qu'on s'assoie avec la relève, qu'on s'assoie aussi avec les producteurs et productrices qui sont prêts à passer leur ferme à la génération suivante pour travailler les solutions avec les gens du milieu. Mais avant tout, il y a quelque chose qui sont clairs. Entre autres, à Québec solidaire, nous voulons avoir un capital patient capable de soutenir financièrement la reprise de ferme, en priorité la reprise familiale, mais également la reprise par des gens qui ne viendraient pas du milieu agricole ou qui ne viendraient pas de l'intérieur de la famille. Mais nous voulons qu'il y ait du capital de disponible pour aider à ce que les jeunes puissent reprendre des fermes, mais en même temps que les personnes qui quittent le travail agricole aient une retraite décente et ne se retrouvent pas à la rue non plus. Donc on veut qu'il y ait du capital qui soit là pour soutenir. L'autre chose, c'est que, puis ça on le voit dans tous les domaines de l'emploi, les jeunes et les gens de ma génération, les milléniaux ou un peu plus âgés, veulent un mode de vie un peu différent, veulent pas forcément passer autant d'heures au travail dans la semaine, veulent peut-être un équilibre avec le temps de la famille plus équilibré. Et pour ça, il faut que les nouveaux producteurs, les nouvelles productrices aient accès à des choses comme la capacité de prendre des vacances et des gens formés qui pourraient venir reprendre temporairement les activités de la ferme alors que les producteurs et les productrices sont en vacances. Aussi, nous voulons soutenir des modèles coopératifs. Donc, plusieurs familles agricoles qui voudraient reprendre une grande terre collectivement et en cultiver des parcelles. Donc éviter le morcellement de la terre agricole tout en permettant des plus petites exploitations qui permettent d'avoir plus de temps pour sa famille, d'avoir une vie plus équilibrée. Ça, on pense que ça va aider à attirer des gens plus jeunes vers l'agriculture.
Il y a toute la question du prix des terres aussi. Il y a la question, même si ça ne semble pas quelque chose de très étendu pour l'instant, mais qui préoccupe quand même, la question de l'accaparement des terres. Comment abordez-vous ça?
Nous voulons protéger les terres agricoles de la spéculation internationale comme locale. Nous voulons que les prix des terres agricoles soient définis par l'agriculture et pas par d'autres usages potentiels. Entre autres, nous allons établir une taxation des terres agricoles de bonne qualité laissées en friche. Et là, je ne parle pas des parties boisées d'une terre agricole qu'un producteur doit maintenir boisée pour des raisons environnementales. Je parle vraiment des terres agricoles comme on le voit le long de la 30, par exemple, de l'autoroute 30. Terres agricoles laissées intentionnellement en friche par des développeurs, par exemple, qui voudraient éventuellement développer. Nous allons taxer ces terres pour éviter que des spéculateurs soient tentés de rentrer dans le marché sans intention aucune de produire.
À Québec solidaire, vous êtes favorable à la multiplicité des syndicats agricoles au Québec. C'est bien ça. En fait, si on le dit clairement, le monopole de l'UPA, ce n'est pas quelque chose que vous soutenez absolument.
C'est effectivement le cas. Donc, il y a plusieurs visions dans le monde agricole et nous voulons que toutes les visions des gens du monde agricole puissent être représentées, comme c'est le cas dans tous les autres secteurs d'emploi. On le voit que ce soit dans le domaine de la construction ou d'autres domaines. Par contre, nous voulons qu'il y ait un syndicalisme agricole fort. Nous ne voulons pas qu'il y ait de producteurs ou de productrices sans syndicat. Et nous voulons que les organismes où l'UPA a une voix ou une influence actuellement, comme la Commission de protection du territoire agricole, la financière agricole et autres, maintenant écoutent la diversité des syndicats agricoles. Donc il va falloir, une fois au gouvernement, que nous nous asseyons avec l'UPA et avec les autres groupes du secteur agricole pour définir exactement le modèle d'interaction entre les différents syndicats futurs. Et ça, je n'ai pas la solution pour vous, parce qu'on ne va pas la décider tout seul, on va la décider avec le milieu agricole en concertation. Mais entendez-moi bien, nous voulons qu'il y ait un syndicalisme agricole. Nous voulons juste qu'il représente toutes les visions de l'agriculture.
protection de l'environnement, la situation, bien sûr, s'est améliorée ces dernières années et des gestes qui ont été posés sur nombre de fermes, mais quand même, il reste passablement de choses à faire. Donc, si on regarde question de pollution, question d'utilisation de pesticides, néonicotinoïdes, glyphosate, les services conseils liés également, qui semblent une préoccupation pour bien des gens dans le monde agricole, comment vous abordez cette question de l'agro-environnement, si on veut?
Nous, nous voulons qu'il y ait moins d'utilisation de pesticides au Québec. Globalement, on veut que ça diminue fortement. Il y a actuellement des barrières à cela. Entre autres, le fait que les producteurs qui voudraient changer leurs pratiques ne sont pas reconnus à leur juste valeur pour leur changement de pratique et qu'ils sont en compétition avec les produits qui viendraient d'ailleurs, de l'étranger, qui ne respectent pas forcément les règles qu'on impose à nos producteurs ici. Donc, tout d'abord, il y a la question de l'égalité avec les produits de l'étranger. Et c'est sûr que là-dedans, ça va rentrer aussi avec notre vision d'une souveraineté pour un Québec meilleur. Éventuellement, nous allons vouloir revoir les accords internationaux parce qu'il faut que les produits qu'on importe de l'international respectent les mêmes règles que celles qu'on demande à nos producteurs ici. Autrement, la compétition n'est pas équitable et c'est bien difficile d'aller demander à nos producteurs de tomates au Québec d'utiliser moins de pesticides quand on laisse rentrer des tomates de l'étranger qui sont arrosées avec n'importe quoi. Donc il y a une égalité avec la compétition qui va devoir être faite. Ensuite, il y a la question de la gestion des risques. Pour beaucoup de producteurs et de productrices, changer ses pratiques, c'est un risque financier. On risque d'avoir plus de ravageurs, on risque d'avoir plus de maladies. Et avec les changements climatiques, ça ne va pas aider. Il y a des nouveaux ravageurs qui vont rentrer au Québec. Il faut que les assurances et surtout la financière agricole reconnaissent ces risques pris par les producteurs au niveau des changements de pratiques et qu'il y ait une disponibilité de produits d'assurance qui sont adaptables aux producteurs qui veulent avoir des pratiques meilleures. Et on va aller revoir la financière agricole, entre autres dans sa gestion des pratiques agro-environnementales.
La conscience de la société québécoise, je dirais aussi bien les agriculteurs eux-mêmes, le secteur agroalimentaire et la population, les consommateurs, la conscience, elle est là, elle est suffisante?
À mon humble avis, étant quelqu'un qui est quand même vécu à Montréal une partie de ma vie, qui travaille dans le milieu agricole, qui parle autant à des gens très urbains qu'à des gens du milieu de l'agriculture, il y a un manque de dialogue et un manque de compréhension actuellement de ce qui se passe dans le milieu agricole, dans la population générale. Pour parler aux producteurs, pour travailler avec eux tous les jours, il n'y a pas un producteur qui a envie intentionnellement d'empoisonner les gens. Les producteurs veulent bien faire et souvent il y a des barrières qui empêchent les producteurs et les productrices de changer des pratiques ou de faire tout ce que les gens voudraient. L'autre chose, c'est la compréhension du monde alimentaire n'est pas toujours là dans la population générale. Nous avons un travail à faire comme gouvernement et quel que soit le gouvernement au pouvoir après le 1er octobre, il y aura un travail à faire à éduquer la population dans les villes, dans les banlieues sur ce qui se passe dans le milieu agricole et pourquoi pas l'intégrer au programme scolaire éventuellement. Il va falloir que les gens sachent d'où vient leur nourriture. Je veux dire, je participe aux portes ouvertes de l'UPA tous les ans et ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui pensent que le lait au chocolat vient d'une vache brune et que le lait blanc vient d'une vache blanche. Il y a un problème d'éducation claire là. On ne pourra pas avoir un dialogue nécessaire, à mon sens, entre les producteurs et les consommateurs sans une meilleure connaissance de ce qui se passe en agriculture. On va vouloir y travailler à Québec solidaire, on va vouloir y travailler en tant que gouvernement.
Question commerce. Bien sûr, il y a les fameuses négociations de l'accord de libre-échange nord-américain, de renouvellement de cet accord. Au moment où on se parle, on ne sait pas. Là, ça négocie, c'est redémarrer les discussions, mais on ne sait pas si ça peut aboutir rapidement. Mais au moment où on se parle, c'est nécessaire d'avoir un tel accord dans un contexte québécois face à nos marchés qui sont pour beaucoup chez nos voisins du Sud, comme on dit. C'est essentiel d'avoir un tel accord.
L'accord tel qu'il existe actuellement pose beaucoup de problèmes. Maintenant, pas d'accord du tout aura des conséquences immédiates négatives sur beaucoup de secteurs. Les membres de Québec solidaire, beaucoup de gens qui croient en nos valeurs, ont eu beaucoup de problèmes avec l'ALENA quand elle a été appliquée la première fois, pour beaucoup de raisons. Mais maintenant, nos secteurs économiques se sont adaptés dans le contexte de l'ALENA. L'éliminer du jour au lendemain va aller chambouler les secteurs économiques qui se sont développés dans les dernières décennies de façon importante. Maintenant, notre vision du libre-échange, c'est un libre-échange réellement équitable, où les pays du Nord, les pays développés, ne sont pas là pour exploiter du cheap labor dans des pays moins riches. Ils ne sont pas là pour profiter de lois environnementales déficientes dans d'autres pays qui affectent la santé de la population, des travailleurs agricoles. Pensez par exemple à l'Amérique du Sud, à la Chine, dont on importe beaucoup de produits. Nous, notre vision, ce serait un libre-échange où, effectivement, on ne produira jamais du café au Québec. Il va bien falloir qu'on l'importe de quelque part. Mais que les travailleurs dans les autres pays de qui on importe des choses aient des conditions de travail équitables, des règles environnementales qui protègent leur environnement aussi et notre santé ici. Et en même temps, ça crée moins de compétition déloyale pour nos producteurs qui, eux, doivent respecter des règles environnementales et des règles très justes de conditions de travail pour les travailleurs. Donc, si on veut que nos producteurs ici paient bien leurs travailleurs, donnent des bonnes conditions à leurs travailleurs, respectent l'environnement, il faut qu'on importe des produits qui respectent aussi ces règles-là. Donc, nous voulons revoir le libre-échange. Le libre-échange tel qu'il existe actuellement est un moyen d'exploiter d'autres pays et d'exploiter les gens pauvres d'autres pays, tout en détruisant les secteurs primaires et secondaires de nos pays, ne laissant que le secteur tertiaire. Dans les deux cas, c'est négatif pour la population la plus pauvre des pays du Sud et d'endroits comme le Québec. Donc, il faut les revoir, à notre sens. Mais pas pour éliminer tout échange. On n'est pas, à Québec solidaire, un parti qui veut se refermer sur soi-même. On veut simplement des échanges plus justes pour nos producteurs ici et pour les travailleurs et l'environnement dans les autres pays aussi.
La transformation alimentaire, on a dit souvent ces dernières années que c'était probablement le parent pauvre du soutien gouvernemental ou des actions gouvernementales. Est-ce que, de votre point de vue, c'est un secteur qui est sous-développé au Québec, qu'on devrait davantage développer et qui viendrait davantage soutenir l'économie québécoise?
On a énormément de créativité au Québec pour la transformation alimentaire. Qu'on aille dans toutes nos régions, on a beaucoup de petites entreprises qui se développent de plus en plus avec des produits qui n'envient rien aux produits européens, qui sont d'excellente qualité. Maintenant, il manque du soutien pour l'établissement d'entreprises de transformation et la mise en marché de produits de transformation. À Québec solidaire, on va mettre des sommes à la disposition des entreprises qui voudraient faire de la deuxième, troisième transformation. En plus de cela, il y a actuellement des sommes publiques qui sont sous-utilisées. Les cafétérias de nos écoles, de nos CHSLD, de nos hôpitaux, même de nos prisons à la rigueur, n'emploient pas assez de produits québécois, ne cuisinent pas forcément suffisamment de plats santé réellement cuisinés dans l'établissement, entre autres parce que ces institutions publiques n'ont pas les budgets pour le faire et sont prises à aller chercher des produits étrangers. Nous voulons que, en majorité, des produits québécois produits ici, soient transformés dans les cuisines de toutes les écoles, tous les hôpitaux, tous les CHSLD de la province pour nourrir les étudiants, les élèves, les personnes âgées, les personnes malades qui ont besoin de soins. Et en utilisant ce levier économique qui existe, en réinvestissant d'abord dans l'alimentation dans les institutions publiques, mais en utilisant autant que possible des circuits courts et un approvisionnement local, on va aider le développement de toutes nos régions au Québec et on va en plus améliorer la santé de notre population, améliorer la santé des enfants à l'école et réduire à long terme les coûts de santé. Donc c'est vraiment tout un système intégré que nous voulons créer où nos budgets scolaires aident les producteurs dans toutes les régions et aident à réduire nos coûts de santé parce que les gens seront plus en santé.
On arrive déjà au dernier point. Pénurie de main-d'œuvre, c'est flagrant dans nombre de domaines, particulièrement l'agroalimentaire, aussi bien la transformation que la production primaire. Et là, on regarde un peu le portrait général, recrutement, formation, travailleurs étrangers. Comment vous abordez cette problématique-là?
Déjà, sur la question des travailleurs étrangers, pour moi-même, travailler avec des producteurs maraîchers qui en embauchent beaucoup, on voit bien que pour les producteurs et pour les productrices, c'est de la paperasse complexe. Il y a des coûts importants rattachés à la main-d'œuvre étrangère. C'est pas pour le plaisir que les producteurs vont recruter à l'étranger. Nous voudrions réduire cette main-d'œuvre étrangère au maximum. À court terme, ce sera probablement pas possible de l'éliminer. Maintenant, en termes de main-d'œuvre agricole, il y a beaucoup une question de conditions de travail. Travailler dans le milieu agricole, ce n'est pas attractif actuellement. C'est des longues journées, pas très bien payées, et pas parce que les producteurs ne veulent pas, parce que les producteurs n'ont pas la marge de manœuvre financière pour le faire. Oui, nous voulons augmenter les conditions de travail à Québec solidaire, entre autres, amener le salaire minimum à 15 $ de l'heure, incluant pour les travailleurs agricoles. Par contre, nous savons que le milieu agricole en particulier marche sur des marges de manœuvre serrées. Nous aurons des budgets spécifiquement pour les entreprises agricoles pour les soutenir dans la transition vers le salaire à 15 $ de l'heure. Nous n'allons pas laisser les producteurs et les productrices seuls avec ça. Mais nous pensons que des réinvestissements en éducation, entre autres dans les instituts de technologie agroalimentaire, entre autres dans les cégeps où il y a les cours de gestion de technologie d'entreprises agricoles, il y a des réinvestissements à faire là. Mais nous pensons aussi qu'en améliorant les conditions de travail, en donnant des assurances également aux travailleurs qui travaillent en agriculture, l'assurance dentaire, c'est bon pour tout le monde, nous pouvons aider à diminuer les coûts de main-d'œuvre. L'autre chose, c'est que nous voulons réinvestir en recherche au MAPAC et faire que le ministère de l'Agriculture redevienne un pôle de recherche pour aider les producteurs à s'adapter, autant aux changements en termes de main-d'œuvre, mais également aux inévitables changements climatiques. L'agriculture québécoise va être affectée, elle va devoir changer ses pratiques. Nous voulons que le MAPAC soit là avec des solutions développées publiquement et accessibles aux producteurs pour s'adapter aux changements inévitables qui s'en viennent et que tous les producteurs et productrices voient déjà dans leur champ. Je veux dire, on n'a pas besoin de convaincre un agriculteur au Québec que les changements climatiques existent. Ça fait 2 décennies qu'ils le voient dans leur champ de façon évidente.
Monsieur Nicolas Châtel-Launay, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes candidat pour Québec solidaire dans la circonscription de Jacques Cartier. Et là-dessus, bien, je vous souhaite bonne fin de campagne.
Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Monsieur Levac.
Québec solidaire est la seule des principales formations politiques québécoises à afficher ouvertement son souhait de voir accepter la pluralité syndicale dans le monde agricole. Ici Lionel Levac. Mon prochain blog présentera les positions du Parti libéral du Québec. Avec le député sortant de Huntingdon et ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, de même qu'au développement économique régional, Stéphane Billette. Au revoir.